Bonjour à tous, je vais essayer d'éviter l'estrade cette année. Bonjour, donc je commence ce cycle de cours sur les matériaux poreux. Bon, vous avez sans doute vu le jeu de mots en fait entre les miracles des trous et les miracles des loups. Mais en fait, pourquoi j'ai choisi ce titre? Eh bien, c'est tout simplement pour, en hommage finalement, cet ensemble de cours, ça sera en hommage à quelqu'un qui est parti relativement récemment, Gérard Ferré, qui était médaille d'or du CNRS, qui, voyez, en mars 2011, a fait une conférence qui s'appelait « Les miracles des trous ». Bon, c'est quelqu'un qui a essentiellement travaillé sur les matériaux micro et un peu mésoporeux, mais à base de polymères de coordination, de MOF ou de MIL. Bon, on en reparlera puisqu'il y aura un cours entièrement dévoué à cela. Donc c'est en hommage en fait à Gérard qui nous a quittés en août 2017 que j'ai choisi de faire un cours sur les matériaux poreux cette année. Alors voilà en gros le plan du cours. Donc après quelques généralités, on va parler de matériaux microporeux. Donc en fait je vais un petit peu sillonner les différents types de matériaux que je redétaillerai en fait dans les autres cours de façon un peu plus large au niveau en fait de tous mes exposés. Donc matériaux microporeux, des zéolithes et d'autres matériaux microporeux. Les microporeux organiques, ça c'est quelque chose d'assez original pour un grand nombre d'entre vous, parce qu'en général vous êtes plutôt dans le minéral ou dans les hybrides. Ensuite, les matériaux mésoporeux un peu plus, je dirais, conventionnels, en particulier pour les gens du laboratoire. Et puis je parlerai, le dernier cours sera consacré aux matériaux à structure hiérarchique, donc au minimum des porosités qui sont bimodales. Alors, pour certains philosophes, eh ben, les pores, ça n'existe pas. Il n'y a pas de trou, parce que vous voyez une définition que j'ai trouvée dans l'encyclopédie de philosophie de Stanford. On peut soutenir que les trous n'existent pas du tout, arguant que toutes les vérités sur les trous se réduisent à des vérités sur les objets troués. Vous voyez, bon, ça, c'est une façon de voir les choses. Au niveau donc de la plupart des gens, quand vous leur parlez de pores, de trous, en fait, ce qui est tout à fait normal, on a toujours une vue macroscopique. Ce que l'on connaît comme matériaux poreux, ce sont les éponges, ça on visualise très bien, en fait, parce que ce sont des choses que l'œil peut voir de façon directe, les morceaux de sucre, les vases en lave, vous voyez cette porosité, et puis évidemment, ce qui est des choses qui nous touchent de plus près, comme les os poreux, en particulier les différences que l'on voit entre un os normalement calcifié et puis un os qui a de l'ostéoporose. Donc ça, ce sont des choses qui parle, je dirais, aux non-scientifiques, parce que, finalement, ce sont des pores que l'on observe directement, facilement, c'est ce qu'on appelle des ultra-macropores, des macropores. Alors, maintenant, si on parle un peu de pores et quels sont les paramètres importants, je vais prendre l'analogie, finalement, avec la spéléologie, les gens qui, finalement, se consacrent à la découverte des grottes. Alors, bon, vous voyez, bon, déjà, il y a la taille en fait, de la grotte, la taille du port, la taille du trou qui joue. Et puis, les interactions entre, je dirais, le port et puis l'invité. Donc, vous pouvez avoir différents types d'interactions. Je ne suis pas sûr qu'au niveau du mouillage et du glissement, la fourrure de l'ours soit équivalente à celle du spéléologue, par exemple. Et donc, tout ça, ça va jouer. Alors, si on traduit ça d'une façon un peu... je dirais un peu plus scientifique, eh bien, qu'est-ce qui va jouer? C'est la taille et la géométrie du réseau haute. Donc, vous voyez, c'est de la glace. A priori, il vaut mieux s'équiper avec des bonnes chaussures, donc avoir une bonne énergie d'adhésion sur le sol. La taille et la nature de l'invité, la nature de la surface du réseau haute, si on a des murs en terre ou des murs en glace, structure des murs du réseau, la structure elle-même, bien sûr, ça peut être plus ou moins tortueux. L'étendue du réseau, et puis évidemment, dans tout réseau de ports, on peut avoir également des cul-de-sac. Alors, si je traduis ça d'une façon un petit peu plus scientifique, à nouveau, eh bien, voici les paramètres importants. Ça va être la taille du port, la géométrie du port, la surface du port, en particulier, ces surfaces peuvent être modulées, fonctionnalisées par des groupements organiques ou minéraux, la structure elle-même du mur, en tant que composition, la topologie du mur, sa fonctionnalité, et puis les distributions de la taille des pores, les connectivités du réseau poreux. Alors ça, ce sont les paramètres, je dirais, scientifiques qui sont importants dans l'étude des matériaux poreux. Alors au niveau des matériaux poreux, vous en connaissez déjà un bon nombre qui sont commerciaux. Alors là, je vais vous montrer un petit peu les plus classiques. Les argiles, les charbons activés, les zéolithes. Les argiles sont bien connues pour l'extraction de pigments, l'affinage des huiles, le traitement d'huile élémentaire, l'extraction de solvants. Les charbons activés, ben, c'est connu, je dirais, depuis l'Antiquité, comme désodorisants, par exemple. Maintenant, bon, ce sont des extracteurs d'azote de l'air, des purificateurs. La purification avec les charbons, c'est quelque chose d'assez classique. Du côté des zéolithes, bien entendu, c'est les fameux tamis moléculaires. Vous avez bon, contrôle des polluants, des propriétés d'extraction, de séchage, etc. Alors, pour les charbons, je dirais, activés, il y a un domaine qui est très important aujourd'hui, c'est celui de l'énergie. J'en parlerai en deux mots à la fin, bien sûr, beaucoup plus dans l'exposé de la semaine prochaine. Donc, en fait, pourquoi ? Parce que ce sont des systèmes qui sont conducteurs à large porosité. Ça peut être intéressant au niveau du stockage et de l'énergie et de la conversion de l'énergie. Et du côté des zéolithes, évidemment, il y a un domaine qui a été très, très exploré et qui continue à l'être, c'est celui de la catalyse. Mais il y a d'autres types de matériaux, vous connaissez. Les gels de silice, vous les connaissez parce qu'en général, vous vous en servez pour regarder s'il va faire beau ou s'il va faire moins beau en fonction du degré d'humidité. Puisqu'il y a des changements de coloration à partir du moment où on met du cobalt à l'intérieur. Donc, ce sont des systèmes connus comme pour le séchage en particulier, bon, des séchants également dans tous les systèmes d'emballage. Bon, ce sont des contrôleurs d'humidité d'une façon générale. Les alumines activés, vous voyez, avec un certain nombre de propriétés assez classiques. Et puis, finalement, des matériaux qui sont très, très utilisés au niveau, je dirais, de la vie de tous les jours, les polymères et les résines. Purification d'eau, extraction de stéroïdes, d'aminoacides, de protéines, en fait, tous les problèmes de séparation. Mais en général, bon, au niveau académique, en tous les cas, pour les gens qui sont dans la salle, les polymères sont un petit peu moins connus, les polymères poreux. Donc, je ferai un cours là-dessus. Donc, les matériaux poreux, bien entendu, la taille des pores compte. Et donc, la première idée, c'est de comment les classer, ces matériaux. Et donc, ces matériaux, ben, il y a un classement qui a été accepté au niveau international. C'est le classement du UPAC. En fait, on classe les matériaux poreux en fonction de la taille des trous, en fonction de la taille des pores. Donc, quand on va vers les toutes petites tailles, c'est-à-dire typiquement entre 0 et 20 angstrom, ou 0 ou 2 nanomètres, ce qu'on appelle les microporeux, les matériaux microporeux. Les exemples les plus classiques, ben, ce sont les zéolithes ou certains polymères de coordination. Je reviendrai là-dessus. Lorsque l'on dépasse cette fameuse petite limite, qui est bon, c'est artificiel, de 20 nanomètres, eh bien, on atteint ce qu'on appelle des matériaux mésoporeux. Donc, ces matériaux mésoporeux, ben, on en trouve, par exemple, dans certains polymères de coordination à grosse cage, ou bien dans les argiles à piliers. Donc là, on trouve même des distributions doubles, en fait. Et puis, lorsque l'on va un petit peu plus loin, on trouve également, dans le même domaine des mésoporeux, tout ce qui est solide mésoporeux organisé, donc les fameux silices, qui sont faites en fait en présence de savon, et je reviendrai là-dessus. Donc, ce sont des systèmes qui sont relativement classiques aujourd'hui, qui étaient novateurs dans les années, je dirais, 80-90, mais qui maintenant deviennent des matériaux très classiques au niveau des laboratoires. Et puis, quand on dépasse cette fameuse limite des 500 angstrom ou des 50 nanomètres, eh bien, on atteint ce qu'on a. On rentre dans le domaine de tout ce qui est matériaux macroporeux, macrocellulaire, mousse, et là, évidemment, il y a encore des sous-catégories en fonction de la taille de ces macropores. Alors, un matériau à structure hiérarchique, c'est un matériau, pour résumer, qui va présenter à la fois des petits trous, des petits pores, et puis des grands pores, par exemple. Donc, au moins une distribution à bimodale au niveau de la porosité. Alors, justement, je voudrais simplement faire des relations rapides et simplistes entre la taille, la distance et les phénomènes des pores et les phénomènes physico-chimiques. Donc tout ce qui se fait à l'échelle nanométrique, bon, que ce soit des liaisons chimiques ou des liaisons, bon, je dirais, physico-chimiques du type électrostatique, en fait, ces interactions sont entre 0 et 1, voire 2 nanomètres maximum. Quand vous faites de la RMN et que vous utilisez les processus de polarisation, vous savez très bien que l'information même du spin ne va pas dépasser 1 nanomètre, dans le meilleur des cas, ou 1 nanomètre et demi. Donc, typiquement, ça, c'est le domaine des liaisons chimiques au sens large. Lorsqu'on va vers les tailles plus grosses, je dirais 2 nanomètres et plus, eh bien, typiquement, c'est le domaine des premiers assemblages micellaires, de ce qui permet de faire des cristaux liquides, par exemple. Et puis, les tailles encore plus grosses, donc de quelques dizaines de nanomètres à quelques microns, ben, ce sont des domaines typiquement caractérisés des micro-séparations de phase. et des domaines de, encore plus grands au niveau de la taille, c'est ce qu'on appellera les macro-séparations de phase. Et donc à toutes ces interactions correspondent finalement des micropores, vous voyez, des mésopores, des macropores, je dirais, de la catégorie de petite taille, et puis des très gros macropores. Donc il y a une relation qui est assez évidente de mon point de vue. Alors pour un matériau poreux, évidemment, la surface poreuse, la surface mesurée, la surface spécifique compte. Alors comment la mesure-t-on ? En général, ce que l'on fait, c'est que l'on fait un isotherme de Phi-Sis option où on mesure le volume de gaz adsorbé par unité de masse en fonction d'une variation de la pression partielle d'un adsorbat. En général, c'est un gaz, et évidemment, on travaille à la température de liquéfaction, 77 Kelvin pour l'azote, et puis je crois que c'est 87 pour l'argon. Pourquoi on travaille ? Eh bien, simplement parce que ça permet d'utiliser des pressions dans un domaine raisonnable. Et donc, en fait, quand on balaye finalement cet isotherme d'absorption, au niveau donc, du remplissage, on remplit d'abord les tout petits pores, les micropores, et donc ça correspond à cette montée importante que vous voyez là. Puis vous arrivez sur un plateau où on commence à remplir de façon monocouche ou multicouche les mésopores, et lorsque vous voyez ce saut, ça correspond à ce qu'on appelle classiquement la condensation capillaire. Et donc toutes ces mesures permettent finalement d'obtenir des petits pores, je vous rappelle, en dessous de 2 nanomètres, des mésopores jusqu'à 50 nanomètres, mais quand on va au-delà, eh bien, il faut utiliser d'autres méthodologies, par exemple des méthodologies comme l'intrusion de mercure, qui permet justement de caractériser tout ce qui est macro-poreux. Évidemment, une des difficultés de l'intrusion de mercure, ce n'est pas la toxicité du mercure, c'est que c'est destructif finalement pour le réseau, alors que les méthodes d'adsorption par gaz, on peut espérer et attendre une certaine non-destruction d'échantillons. Alors, voilà en fait les différents points. Et là, j'ai trouvé un petit dessin qui symbolise finalement les différents phénomènes. Vous voyez l'absorption des micropores, puis les monocouches qui commencent à se former, puis on commence à faire de la multicouche. Et là, on remplit l'essentiel de la mésoporosité. Alors, il faut évaluer finalement également ces surfaces. Et donc, on s'en sort comment ? On transforme cet isotome de Phi-Sis-Option en utilisant en général deux techniques, soit une technique de modélisation basée sur la DFT, donc la théorie de la fonctionnelle densité. Donc ça, c'est de la simulation. Soit on utilise finalement les données de l'adsorption, on les transforme suivant un modèle, vous voyez, qui n'est pas tout récent, de 1938. C'est ce qu'on appelle le modèle BET. Et ça permet finalement la détermination des surfaces spécifiques. Alors, dans ce que j'ai lu, et j'ai lu pas mal d'articles là-dessus, je crois que maintenant, il faut être, surtout pour les grandes surfaces, il faut être très prudent quand on utilise le modèle BET, parce que je vous conseille, en fait, pour les gens du labo en particulier, d'aller lire cet article-là et celui-là. Vous aurez un certain nombre d'éclaircissements, parce que, en fait, il y a des conditions très importantes pour pouvoir appliquer ce modèle. En général, ce que les gens appliquent toujours, c'est d'arriver à calculer finalement la surface BET au début pour les faibles pressions dans un domaine linéaire avec un paramètre qui traduit l'adsorption qui est le paramètre C qui doit être positif, mais ça ne va pas au-delà très souvent. Et en fait, la plupart des critères ne sont pas satisfaits. Ce qui veut dire que la plupart des surfaces qui sont déterminées, à partir du moment où vous n'allez pas au bout finalement des contraintes du modèle, eh bien, l'incertitude elle est au moins de 20%. Donc si vous avez une surface de 5000 m² par gramme, ça veut dire que vous vous trompez de 1000 m², ou vous pouvez vous tromper de 1000 m². Et ça, je pense que les étudiants doivent en avoir conscience. C'est très important. Alors évidemment, c'est toujours mieux d'annoncer un grand chiffre qu'un petit chiffre, mais il faut que le chiffre soit juste. Voilà. Alors, juste pour vous donner une idée des tailles en fait, et des surfaces, là, ici, j'ai reporté une surface d'une particule en mètre carré par gramme en fonction du diamètre de la particule. Donc ça, ça se calcule facilement en faisant l'hypothèse d'une sphère. Ça dépendra de la taille essentiellement et puis de la masse volumique. Donc pour une masse volumique de 3 grammes par centimètre cube, vous voyez typiquement quelque chose d'un petit peu plus léger que l'oxyde de titane, voilà ce que l'on trouve. Pour 1 micron, on a des surfaces de l'ordre de 2 mètres carrés. C'est simplement pour vous donner des ordres de grandeur. Pour 10 nanomètres, eh bien, on est à 200 mètres carrés. Et pour 1 nanomètre, aux alentours de 2000 m², vous voyez, globalement, c'est les micropores, les mésopores, les macropores. Alors maintenant, si je veux aller vers des grandes surfaces, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien, il faut que, finalement, j'obtienne, par exemple, des pores de plus petite taille. Donc, globalement, avec cette relation-là, je vois bien que la surface va augmenter lorsque la taille des pores sphériques ou des particules sphériques, si vous préférez, diminue. Alors, si on fait un calcul très simple, si je prends des pores de 5 angstroms et que je prends une masse volumique qui correspond finalement à un matériau carboné, avec des murs très minces, eh bien, je vais trouver une surface qui est de l'ordre de 8000 m2 par gramme. Et c'est à peu près entre 2 m2 par gramme et 800 m2 par gramme qu'aujourd'hui, finalement, la plupart des surfaces qui sont publiées se trouvent. Donc là, je passe parce que je reviendrai sur ça. Ça vous donne un peu les idées sur les surfaces aujourd'hui. Bon, donc les argiles, les zéolithes, vous voyez, les matériaux type la silice. En gros, on est entre 500 et 1500 m2 par gramme. Les charbons activés, ben, on est il y a des systèmes commerciaux aujourd'hui qui sont à plus de 3000 m2 par gramme. Il faut quand même le signaler. Et puis ça, c'est des nouveaux, je dirais, micropores organiques qui vont jusqu'à 4000. Et puis des records dont on reparlera finalement dans les cours. Alors maintenant, je vais revenir un petit peu. Je vais vous faire un petit peu une étude un peu transversale finalement des différents matériaux poreux, en fait. En particulier, je vais commencer par des choses qui sont très anciennes, telles que les argiles, les charbons et les zéolithes. Je reviendrai très fortement sur les charbons, bien entendu, dans un second cours. Alors, ben, les matériaux à base d'argile, c'est pas nouveau, hein. J'ai cherché un peu dans la littérature. En fait, les premières argiles pour poterie, on a des argiles il y a 18000 ans qui ont été utilisées. Donc ce sont des matériaux qui sont abondants, accessibles, qui au début ont été énormément utilisés pour de la construction, mais également, vous voyez, pour de l'adsorption, pour de la poterie, pour de la conservation. Donc ces argiles sont des matériaux, vous voyez, qui sont des aluminosilicates. Donc, il y a beaucoup d'argiles naturelles et également des argiles de synthèse. Hein. Typiquement, ce sont toujours des alumines silices avec d'autres types de métaux, du magnésium ou même des métaux de transition. Et puis, vous avez une autre famille qui est proche des argiles, je dirais proche dans le sens du fait que ce sont également des matériaux lamellaires très utilisés. Ce sont ce qu'on appelle les hydroxydes double lamellaires. Et ces hydroxydes double lamellaires, bon, un des représentants les plus classiques et naturels, c'est l'hydrotalcite. Hein, vous voyez, ce sont des hydroxydes doubles, donc hydroxylés, mais à nouveau avec des cations, je dirais, autour de l'alumine, de métaux, d'alcalino-terreux. Alors, ce qui est important dans ces matériaux lamellaires, justement, c'est qu'ils sont constitués soit de feuillets, soit donc avec des espaces interfeuillets, soit de tunnels. Et en fait, finalement, leurs propriétés d'absorption sont essentiellement dues aux interactions qui ont lieu entre des molécules invitées, vous voyez, et puis ces espaces vides. Et donc, en fait, ils ont été énormément étudiés. Pourquoi ? Parce que finalement, les argiles, à la base, c'est pas cher au début. Et il y a plein de propriétés intéressantes derrière. C'est moins fancy, on ne fait peut-être pas des jacks avec des argiles, mais ça peut être très efficace. Hein. Et donc, en fait, avec des très grandes variétés donc de structures de composition chimique, la charge des feuillets peut être modulée, donc les propriétés d'absorption, la nature des espèces, on peut insérer, par exemple, non seulement des polluants, mais également on peut insérer par exemple un monomère organique qui va polymériser, et je vais me servir de l'insertion pour faire un point d'ancrage sur un nœud de réticulation, et ça va me faire des charges minérales hyper efficaces, par exemple pour réticuler des polymères. Et donc là, il y a des tas d'applications que je vous montrerai, donc ça c'est des choses qui sont assez classiques. Alors, le seul exemple que je voudrais vous montrer rapidement, ben, c'est un exemple qui est connu et que j'aime bien, c'est celui du bleu maya. En fait, le bleu maya, sa composition, c'est une argile fibreuse qui est la paligorskite. Donc, ce n'est pas une argile lamellaire, mais c'est une argile qui a des tunnels. Et donc, en fait, dans le bleu maya, la coloration vient finalement de l'anil, hein, qui contient ce colorant qui s'appelle l'indigo. Et alors, donc, ce sont dans les tunnels de cette argile que s'insère finalement ce colorant pour former le bleu maya. Hein. Et donc, c'est une argile qui est microporeuse, puisque vous voyez, la taille des canaux, elle est bien en dessous de 2 nanomètres. Hein. On est aux alentours d'une moyenne de 5 angstroms. Et puis, c'est ce que les explorateurs ont trouvé en 1946, ces fameux bleus. sur les temples mayas, en particulier dans le Chiapas et dans d'autres régions du Mexique. Alors, ce qui les a énormément étonnés à l'époque, c'est que finalement, les bleus étaient d'une qualité remarquable, alors que le Chiapas, pour ceux qui ont eu la chance d'y aller, c'est humide, c'est 40 degrés, c'est l'enfer au niveau du temps. Et donc, pour la dégradation des colorants, c'est quelque chose qui est très efficace. Et bien, malgré ça, les bleus se sont conservés. Ils ont été faits donc par mélange et broyage et chauffage. Donc, en fait, la plupart de ces bleus sont relativement bien conservés puisque c'est l'argile, finalement, la partie minérale qui protège le colorant. Alors, on pourrait se poser la question, finalement, est-ce qu'on est vraiment originaux lorsqu'on parle de mécanosynthèse ? Je ne pense pas, parce que là, c'est typiquement ce que l'on fait. C'est de la mécanosynthèse, mais ils avaient quelques années d'avance sur nous. Alors, le bleu indico, bon, qu'est-ce que ça donne comme stabilisation ? Eh bien, une meilleure stabilité thermique à l'humidité et aux acides, ça, c'est quelque chose de connu. Donc ça, c'est une vieille histoire que j'ai déjà racontée. Par contre, au niveau des applications des argiles, eh bien, évidemment, ce sont des adsorbeurs, mais également, ce sont des matériaux de renfort et d'allègement dans les nanocomposites de l'automobile pour les bateaux, et ça, vous en avez des quantités pratiquement partout. Et c'est vraiment l'utilisation de ces charges avec des porosités accessibles qui est un des facteurs déterminants pour l'optimisation des propriétés mécaniques. Alors, je ne dirai rien de plus sur les argiles, simplement parce que je me suis longuement étendu dans une leçon qui est toujours sur Internet, hein, la leçon 3 de Marc. Et en fait, avec Francisco et Iva, on a rédigé, suite à cette leçon, finalement, un article de revue. Donc, pour les gens qui seraient intéressés en particulier par les matériaux lamellaires d'une façon générale, ben, je vous invite à suivre cet article ou à aller écouter finalement la leçon de 2011. Alors, du côté des charbons pour eux, bon, bah, les charbons, c'est pas nouveau, en fait. Ça a été utilisé depuis très longtemps dans la métallurgie, comme adsorbeur purificateur, avec des mises en forme qui peuvent être très variées. Vous voyez, ça, c'est des mises en forme, je dirais, classiques de granulés, mais également, bon, la fibre et le fil de carbone, les tissus en carbone, etc. Ce sont des systèmes qui sont, je dirais, somme toute, assez classiques. Alors, il y a eu un renouveau sur les carbones récemment, grâce aux recherches en fait, sur ce qu'on appelle les supercapacités. En fait, ce sont des supercondensateurs qui permettent d'obtenir des densités de charge très élevées, vous voyez, de l'ordre de 10 kW par kilo, ben, et c'est énorme. Par contre, par rapport aux batteries, des densités d'énergie beaucoup plus modestes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le phénomène qui permet de générer finalement ce stockage, ce n'est pas un phénomène redox comme dans toutes les batteries, où on change l'état d'oxydation, et ça fait de la diffusion, ça demande du temps, c'est simplement un phénomène électrostatique. Et donc le fait que ce soit un phénomène électrostatique, ça permet finalement d'avoir des constantes de temps qui sont de quelques secondes à quelques dizaines de secondes, donc des temps de charge qui vont être très très courts. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est très complémentaire par rapport aux batteries. Aujourd'hui, en fait, au niveau des recherches, l'une des limitations sur ces systèmes-là, c'est les tensions qui sont de l'ordre de 3 volts parce qu'il y a dégradation des solvants mais à ces tensions-là. Mais globalement, c'est un domaine qui est très, très actif et je dirais le point vraiment de départ de cette recherche de façon conséquente, ça a été l'article de Patrice Simon et de Pierre-Louis Taberna en 2006. Vous voyez, c'est quand même relativement récent. Et il y a énormément de chercheurs qui investissent justement dans la recherche de nouveaux matériaux, pas forcément des matériaux carbonés uniquement, mais des matériaux qui vont présenter justement ces propriétés de supercapacité. Alors, dans le cadre du cours, eh bien, je vous parlerai également de carbone mésoporeux et microporeux, avec, vous voyez, un ensemble de propriétés absorbant des systèmes de référence, parce qu'à partir du moment où on a des pores bien calibrés, eh bien, on peut faire des modèles, je dirais, de façon plus simple. Évidemment, ce sont des matériaux intéressants pour le stockage et la conversion d'énergie, des supports de catalyseurs, ou même voir des catalyseurs intéressants. Donc, le prochain cours, d'ailleurs, va être centré, finalement, autour des matériaux carbonés et surtout sur les différentes approches qui sont utilisées pour obtenir, justement, ces matériaux carbonés. Alors, maintenant, on va passer à une autre catégorie de matériaux qui ne sont pas les matériaux nouveaux, qui sont, en fait, tout ce qui tourne autour des zéolithes et certains microporeux minéraux. Alors, les zéolithes, à nouveau, si on regarde l'historique, eh bien, ils n'ont pas été utilisés au départ uniquement pour leur propriété de porosité. Hein, ce sont des systèmes abondants, légers, peu coûteux, avec une résistance acceptable à l'érosion, facile à travailler, on peut en faire des briques, avec un bon contrôle, finalement, du degré d'humidité, et puis c'est un régulateur thermique. Et ça, c'est la structure poreuse qui amène ça. Et donc, vous voyez, il y a eu des constructions, il y en a un grand nombre, qui ont été, réalisées sur la base de l'utilisation de ces zéolithes, hein, typiquement. Alors, les zéolithes, qu'est-ce que c'est ? Finalement, ce sont des aluminosilicates qui ont été, en fait, découverts et nommés par Alex Cronsted, voyez, en 1756. Donc, zéolithes, ça veut dire pierre qui boue, hein, du grec zéo, et puis de lithos, qui veut dire la pierre, simplement parce que quand on les chauffe, on voit arriver en surface quelques petites bulles, et que, bon, bah, c'est une pierre qui semble bouillir, c'est simplement l'eau qui a été absorbée. Et donc, aujourd'hui, au niveau des zéolithes naturels répertoriés, il y en a 67, et au niveau des synthétiques, vous voyez, il y en a 234 dont on connaît très bien la structure, et 11 qui sont, je dirais, cristallines, mais mal cristallisées, et donc que j'ai classées dans une autre catégorie. Alors, les pères fondateurs, finalement, de cette aventure zéolithique, hein, ce sont des industriels, hein, Barrère et Milton, qui travaillaient, en particulier Barrère, à l'Union Carbide. Et donc, c'est quelque chose qui n'est pas récent. Vous voyez, même moi, je n'étais pas né à l'époque, en 1945. Hein. Alors, je ne parle pas de certains qui sont dans la salle. Et donc, ça a été développé par ces Union Carbide. Donc, ça veut dire qu'on cherchait des adsorbeurs, ce qu'on appelle des tamis moléculaires, et également des catalyseurs. Alors, voilà, typiquement, vous voyez, une sodalite avec ses formes de cage. Je vais revenir un petit peu sur l'identification, finalement, de ces structures. Mais d'abord, je vous rappelle que la base, finalement, de la construction d'une zéolite, c'est un silico-aluminate, où vous avez des ponts entre le silicium et l'oxygène. Et en fait, la charge, vous n'avez pas une compensation de charge totale, vous voyez bien que vous avez un excès de charge, et cette charge, en général, elle est compensée par un cation qui est souvent ajouté au moment de la synthèse, par exemple de la soude, eh bien, ça permet d'inclure du sodium. Hein. Mais ce qui est très intéressant dans ces zéolithes, c'est évidemment la structure, mais également l'acidité qui peut être modulée en fonction du rapport entre le silicium et l'aluminium. Donc, en fait, ce sont des matériaux qui peuvent... Et donc, comment on les représente, voyez, ces zéolithes ? Eh bien, ça, c'est une structure, je dirais, dessinée à la main, mais en gros, chaque sommet, ici, va correspondre à un tétraèdre. Et les traits, en fait, ici, pleins, correspondent à des arêtes, donc à des ponts, soit entre deux siliciums, soit entre un aluminium et un silicium. Hein ? Et donc, c'est un petit peu comme ça qu'on représente finalement les structures en 3D des zéolithes, les topologies. Alors, je vous refais un petit dessin, vous voyez, dans cette structure où il y a à la fois des pores carrés et des pores hexagonaux. Bon, elle est représentée ici. Eh bien, à nouveau, tous ces points-là représentent un tétraèdre, alors que les traits, ici, tous les traits, représentent une liaison entre les métaux, donc entre le silicium et le silicium, par exemple, et entre le silicium et l'aluminium. Alors, il y a énormément de zéolithes, c'est ce que je vous ai dit au départ avec les chiffres, donc avec des topologies très, très variables et très intéressantes, et des tailles, finalement, de porosité qui sont très variables. Alors, ce qu'il faut retenir un petit peu, si vous avez quelque chose à retenir sur les zéolithes, c'est que, finalement, le diamètre des pores, il y a une corrélation entre le diamètre des pores et le nombre de tétraèdres qui sont présents dans la zéolite. En particulier, vous voyez, j'ai pris un exemple, quand on va de la sodalite à 4 tétraèdres à la faujasite à 12 tétraèdres, eh bien, la taille des pores passe de 2,6 angstrom à 7,4 angstrom. Et là, intermédiairement, ben, vous avez quand même, ce n'est pas une corrélation linéaire, mais vous avez une corrélation directe entre, finalement, le nombre de tétraèdres que vous arrivez à former dans cette zéolite et la taille des pores. Alors, ces matériaux ont été utilisés comme tamis moléculaires, échangeuses d'ions, dans la séparation de la purification, comme catalyseurs, bien entendu, comme détergents, comme vecteurs, dans l'agriculture, mais également dans le domaine biomédical, et puis comme des additifs de construction, parce que, tout simplement, les zéolithes naturels, ce n'est pas très coûteux. Alors, il y a eu énormément de recherches qui ont démarré, vous voyez, à peu près dans les mêmes années, pour substituer finalement le cation compensateur de charge par des molécules organiques. Ce qui se cachait derrière ces recherches, c'était deux faits marquants que les gens ont essayé d'obtenir. C'était une variation importante du rapport silicium-aluminium, en particulier d'aller vers des zéolithes purement siliciés, et également, et donc ça fait varier forcément les acidités des zéolithes, et puis également cet effet gabarit ou template permettait également de changer finalement la taille des trous, en fait, pour obtenir finalement des porosités un petit peu plus larges. Alors voilà des exemples qui ont été faits dans ces années-là. Alors donc ça, c'était les systèmes classiques à base d'ammonium tétrasubstitué. Et puis en gros, bon, ensuite, il y a eu des molécules beaucoup plus grosses, par exemple, comme ce trispyrolidinium, vous voyez, quelque chose de beaucoup plus gros, mais également avec des azotes qui peuvent se protoner, avec des charges plus importantes. Donc, en fait, densité de charge plus grosse, plus grande, ça permet d'obtenir finalement des structures différentes. Et voilà ici une des structures, par exemple, du ZSM-18, vous voyez, avec des trous qui sont beaucoup plus larges. Donc, suite à ces travaux, en fait, quand on regarde la littérature, il y a une ouverture vers les non-silicates, de ce qu'on appelait les zéotypes, parce qu'on s'est dit finalement le phosphate, les phosphates d'aluminium, c'est connu, et puis le phosphate, c'est un tétraèdre. Donc c'est un bon cheval pour essayer de faire des substitutions et d'aller vers d'autres types de zéolithes. Alors par exemple, bon, vous voyez le groupe de Ferré, et ça je pense que c'était la thèse de Thierry Loiseau, d'obtenir donc des matériaux microporeux à réseau ouvert sans silicium en fait, essentiellement vous voyez avec des phosphates et des tétraèdres d'aluminium et de phosphate, et également j'irais des coordinations qui peuvent être variables grâce aux éléments de transition. Et voyez ici les tailles des micropores, eh bien on a agrandi très fortement par rapport aux zéolithes conventionnels. Et donc ça, c'était, je vous dis, la thèse de Thierry Loiseau, et ça, ce sont des thèses qui ont eu lieu au Mans. C'est pour ça que ces matériaux, si vous les cherchez dans les littératures, on va les appeler Université du Mans, ULM. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu, comme j'irais de mon point de vue, un peu percée nouvelle dans le domaine des zéolithes ? Eh bien, il y a eu l'arrivée des métallozéolithes en particulier. Et donc, en particulier, métallozéolithes, ça veut dire que ce sont des métaux de transition ou bien des terres rares. Et donc, vous avez au Portugal le groupe de João Rocha qui a énormément travaillé, en particulier sur les lanthanides avec des propriétés optiques. Donc ça, c'est intéressant parce que ça reste des matériaux poreux. Il y a toutes les nouvelles zéolithes qui ont été découvertes par le groupe d'Avelino Corma, essentiellement avec un regard vers la catalyse. Donc, Avelino Corma, c'est un groupe qui est mondialement connu. Alors du côté français, eh bien, il y a toute une école des zéolithes qui était à Mulhouse, en fait, en particulier tout le démarrage sur les zéolithes fluorés, les phosphates et également de nouveaux matériaux zéolithiques. C'était l'équipe de Mulhouse. Alors par ordre d'âge, j'ai classé un petit peu les gens, mais je dirais la personne qui a été un petit peu le père fondateur, c'est Jean-Louis Gut de toute cette affaire. Ensuite, au niveau national, il y a des choses assez originales qui se font au niveau des nano-zéolithes, et donc c'est Svetlana Mintova et Valentin Valchev à Caen qui développent ce genre de choses, et en particulier bon, à la conférence de février, bon, Madame Mintova viendra vous faire un exposé là-dessus, et puis à Montpellier, donc, il y a François Flagula et Francisco Di Renzo qui en fait sont des gens qui ont travaillé énormément dans le domaine des zéolithes. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme ouverture du côté des zéolithes ? Et je vais vous choisir un exemple que je trouve un petit peu amusant en particulier. Donc, ce que je vous disais, c'est que les zéolithes conventionnels, eh ben, ce sont des associations de tétraèdres. Et puis, fin des années 80 et début des années 90, il y a eu une nette ouverture, finalement, vers les zéolithes qui mélangent des tétraèdres et puis les systèmes à base de métaux de transition et de lanthanides. Et en particulier, le groupe de Rocha a beaucoup participé à cela. Vous voyez, par exemple, des métallosilicates, ce sont des titanosilicates, où vous allez avoir non seulement les tétraèdres, je dirais, classiques de la silice, qui sont maintenant réticulés par des octaèdres de titane, de TiO6, et donc ça donne des degrés d'ouverture supplémentaires dans des structures qui sont totalement originales. Et donc ça, vous voyez, en fait, il y a eu un brevet en 1989, et le premier article, je dirais, assez marquant, qui donne finalement les premières structures des titanosilicates, c'est un article qui a été publié à Nature par Rocha, Anderson et Terasaki. Terasaki, c'est un Japonais qui est un excellent microscopiste, parce qu'il y a un travail de microscopie très, très important à faire pour remonter finalement aux structures de ce genre de matériaux. Alors, l'exemple que je vais utiliser pour illustrer finalement Les zéolithes, eh bien, je ne vais pas utiliser un exemple qui vient de la catalyse, parce que ça, je vous en ai déjà parlé dans d'autres cours, et puis c'est quelque chose d'assez classique. Je vais utiliser un exemple qui est intéressant pour le domaine médical. Vous voyez, cette zéolite, c'est un zirconium cyclosilicate qui a cette structure-là, donc avec, vous voyez, des polyèdres de coordination élevés dans lesquels le zirconium est au centre, et puis associé par ces petits tétraèdres, ce qui correspond au silicium. Et vous avez donc des caches qui sont accessibles via ces fenêtres ZR3 et C4, avec, vous voyez, des tailles qui tournent autour de 3 angstroms, des toutes petites tailles. Et donc, ces systèmes-là sont utilisés pour traiter une maladie qui s'appelle l'hyperkaliémie, qui correspond finalement à un excès de potassium dans le plasma sanguin. Typiquement, quand la concentration en potassium dépasse 5 mmol par litre, eh bien, vous êtes atteint de ce genre de problème, créant en fait des arythmies, des troubles conductifs, des arrêts cardiovasculaires. Donc ça peut être quelque chose de très sérieux, et c'est fréquent chez les patients atteints d'insuffisance rénale chronique, de diabète ou d'insuffisance cardiaque. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme traitement ? Ben, il y a un traitement hospitalier qui est assez lourd, à l'insuline, ou bien des traitements ambulatoires qui sont beaucoup plus facilement acceptés par le patient quand c'est possible. Et jusqu'à maintenant, ce qu'il y avait, c'était essentiellement des régines échangeuses d'ions qui étaient administrées par voie orale ou rectale. Mais avec des niveaux d'efficacité, une régine échangeuse d'ions, ce n'est pas très sélectif. Alors justement, l'utilisation de cette zéolite ZN9 est beaucoup plus efficace puisque, en gros, dans l'heure, avec une dose de 10 grammes, eh bien, vous retrouvez finalement des taux de potassium normaux en une heure. Donc c'est quand même quelque chose qui marche bien. Et puis ces taux de sériques normaux de potassium sont maintenus en fait avec des doses journalières de l'ordre de 5 à 10 grammes, une seule fois par jour, par rapport à une résine. Et la capacité d'absorption de potassium de cette zéolite est 9 fois supérieure à celle des résines polymères organiques, telles que le polystyrène sulfonate de sodium, qui est une des résines utilisées. Et comparée aux résines, à nouveau, cette zéolite est plus sélective d'un facteur 125 pour le potassium par rapport au calcium. Donc il y a une sélectivité qui est déjà énorme de cette zéolite. Alors l'analogie qui a été faite pour expliquer cette sélectivité, c'est avec les fameux canaux ioniques, en fait, qui sont des filtres sélectifs du potassium qui existent finalement en biologie, et en particulier dans la membrane cellulaire. Ce sont des canaux qui sont totalement hydrophobes. Et lorsque le potassium passe dans ces canaux, il est obligé de se déshabiller complètement de sa sphère de solvatation. Il enlève toutes les molécules d'eau. Et ensuite, c'est vraiment les interactions par liaison hydrogène autour du cation et la taille finalement de ce canal qui gère finalement la sélectivité. Et ça, ce sont des études qui ont été faites, j'irais, sur de nombreux cations en comparant le potassium à pratiquement tous les métaux alcalins et tous les métaux alcalino-terreux. Alors, cette fameuse cage à 3 angstroms, elle est très très efficace. Le cation potassium doit se déshabiller au moment de l'adsorption avec des distances qui sont en parfaite adéquation avec la taille du potassium. Quand vous comparez, vous voyez, par rapport, le potassium, il est à la distance idéale pour optimiser finalement l'énergie d'adsorption et d'interaction. Le sodium, beaucoup moins. Le potassium, encore moins. Hein ? Donc, en fait, déjà, sodium et potassium hydratés sont plus gros et nécessitent plus d'énergie pour se libérer de l'eau, de leur sphère d'hydratation, premier point. Ensuite, ils sont trop petits pour maximiser les interactions, vous voyez là, avec les oxygènes. Hein, et donc, au niveau de l'énergie, l'échange du sodium par le potassium est beaucoup plus facile, et il y a une différence de 20 kcal par mol, ce qui est énorme. Et donc, c'est un matériau qui est très intéressant au niveau de l'efficacité. Et c'est assez simple, finalement, c'est une cage zirconium-silicium. Alors, la question qu'on peut se poser, oui, mais zirconium, attention, ça peut présenter des problèmes de toxicité. Alors, je vous rassure, ça a été analysé à la fois par l'European Medicine Agency et également par la FDA américaine, hein, qui est l'Agence américaine des produits alimentaires et des médicaments. Et donc, c'est un système qui a été validé, qui a été vendu dans un premier temps par une société qui s'appelle ZS Pharma, puis ensuite par AstraZeneca. Donc, ce sont des matériaux qui ne sont pas présentés simplement dans un PowerPoint, mais qui sont réellement utilisés dans la vie courante. Alors maintenant, je vais passer aux microporeux organiques. Et puis, c'est une image que j'aime bien. En fait, vous voyez, c'est l'image d'un échafaudage. Et donc, certains microporeux organiques présentent des degrés des organisations intéressantes et donc sont cristallisés. Mais quand vous voyez cet échafaudage, ce n'est pas très compliqué de comprendre ce qui peut se passer. Ici, vous avez donc des croisillons et puis des montants. Donc, si vous montez cet échafaudage très rapidement, ça va être le bazar, c'est-à-dire que vous n'allez pas obtenir quelque chose de régulier. Ça me paraît évident. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas obtenu une porosité, enfin un espace entre les différents montants. Ça va vous donner lieu à des polymères microporeux qui peuvent être intéressants. Par contre, si vous le montez relativement lentement, bien vous allez monter un échafaudage, je dirais, cristallin. Et ça sera ce qu'on obtient avec les MOF et les COF. Mais on n'est pas toujours un ouvrier parfait. Donc ça veut dire que si jamais ici, tous mes croisillons, je les soude, c'est mort. Ça ne peut pas marcher. Donc qu'est-ce que va faire je vais avoir simplement des systèmes qui vont être vissés. Ça, c'est ce que vous connaissez. Ça veut dire qu'il y a une réversibilité. Et si je joue sur la réversibilité, eh bien, je vais être amené à pouvoir faire justement des matériaux cristallins. Et donc c'est un petit peu tout ça que je vais vous raconter dans un certain nombre de cours. Alors, on les classe un peu, les polymères amorphes poreux, avec des noms de famille, les PIM, PAM, POUM, enfin bon, ça sont les appellations habituelles que vous trouvez dans ces domaines. Une représentation schématique, donc ça sera un des cours. Les polymères poreux cristallins de type COF, et donc ce sont des systèmes qui sont condensés avec des espaceurs rigides, donc vous avez ici les montants, et ici bon, les cardans en fait, et ces réactions sont réversibles. Et cette réversibilité vous permet d'aller vers des édifices qui sont relativement bien ordonnés et cristallisés. Alors, puis il y a des systèmes beaucoup plus exotiques, donc des systèmes qui sont obtenus à travers des liaisons hydrogènes ou bien des systèmes moléculaires, finalement, où on condense simplement des cages organiques. Et puis, je vous ferai un cours également sur les polymères. Donc, aujourd'hui, dans le cadre de cette conférence d'introduction, je vais simplement vous montrer des exemples autour de justement ces systèmes qui sont des associations de cages poreuses et également des polymères de coordination. Donc, ces exemples-là, eh bien, comment fait-on ? Voyons, on a une première réaction, qui est une réaction de couplage entre une aldéhyde et une amine. Donc, c'est une réaction assez simple, qui est équilibrée. Pour aller former, dans les conditions de synthèse et de dilution, vous voyez des cages, puisque ça va en jouant sur la stoichiométrie, des cages qui vont être contraintes par la forme, finalement, des molécules qu'on choisit. Et donc, ça veut dire que ces cages, vous voyez, vous avez forcément des trous ici. Et ensuite, on contrôle, finalement, la cristallisation de ces cages pour obtenir, vous voyez, des cristaux de grande taille, microniques, dont on peut faire la structure. Et vous voyez ici, par exemple, le diffractogramme de rayons X qui montre que le système est très bien organisé. Donc, en fait, c'est de la cristallisation de cristaux moléculaires. Et donc, ça, je pense que ce concept-là, il est utilisé avec des molécules organiques, mais il peut être utilisé avec à peu près n'importe quoi. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, un polyanion, et j'en connais, avec des très gros trous, pas des petits polyanions genre Kegin, des très gros trous, et que vous les précipitez de façon astucieuse, vous allez gérer, finalement, cette porosité. La différence que vous allez avoir à l'arrivée, elle va être où ? Ben, elle va être, c'est que quand vous allez vouloir faire votre article surface spécifique en mètres carrés par gramme. Donc vous avez d'un côté, vous avez des matériaux carbonés, alors là, ça monte. Si vous faites ça avec des polyanions, parce que le concept peut être fait, ça j'en suis convaincu, avec de la matière minérale, eh bien dans ce cas-là, eh bien, la surface, le tungstène, c'est hyper lourd. Hein ? Mais le concept peut être le même. Alors, c'est des systèmes que j'ai trouvé assez séduisants et intéressants. Vous voyez, donc, ça fait ces cages, et ces cages, en fait, se collent les unes aux autres au moment de la cristallisation. Et ce que vous voyez, ces petites boules de couleur, ce sont les pores qui sont ajustables en fonction, finalement, du choix des molécules de départ. Ça peut être très bien modélisé. Hein, et donc, ça, ce sont des pores, vous voyez, 7 angstroms, 10 angstroms, 12 angstroms, avec des surfaces qui peuvent être atteintes de l'ordre de 600 mètres carrés par gramme. Donc des microporosités internes. Ce qui m'a plu dans cet exemple, c'était un peu le concept qui est intéressant et qui peut être étendu finalement, ce qui veut dire que finalement, on n'a pas besoin de réseaux infinis, totalement réseaux covalents, pour obtenir des matériaux poreux. Et ça peut être intéressant pour différents domaines d'application. Alors, microporeux, mésoporeux, hybride, ben, je reviens sur les fameux polymères de coordination. Alors, ces polymères de coordination, ben, vous avez bon, ce système que j'aime bien montrer avec ces deux pinces de crabe. Ici, vous avez le montant. Et ici, vous avez les croisillons. Les croisillons vont s'accrocher ici. Et puis, ces croisillons, ça peut être un métal ou bien, très souvent, ce sont des clusters oxométalliques parce que, finalement, il y a toujours de l'eau qui est présente. Et puis, de l'eau et du métal, et ben, ça donne facilement un début d'oxyde, pour parler simplement. Et donc, ça donne des clusters oxométalliques. Alors, bon, il y a énormément de travail qui est fait là-dedans. Je crois qu'il y a, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je pense qu'il y a 66 000 structures aujourd'hui de MOF et puis plusieurs centaines de milliers de publications. C'est un domaine où il y a eu énormément d'activités. Et j'irai trois grandes familles, mais j'en citerai d'autres, bien entendu. Les MOF, le nom de départ, avait été trouvé par Yagi lorsqu'il était à UCLA. Maintenant, il est à Berkeley. Et donc, Metal Organic Framework. Et il a énormément travaillé autour du zinc, des petits clusters de zinc avec, vous voyez, des ligands acétates. Et évidemment, il faut avoir un ligand au moins bifonctionnel pour faire un réseau. Il faut au moins avoir une fonctionnalité de deux. Donc, en prenant ici une molécule organique avec des carboxylates de chaque côté, eh bien, on va accrocher ces systèmes-là. Du côté français, ben, il y a tout le travail de l'Institut Lavoisier, ce qu'on appelle l'EMIL, essentiellement avec toujours des carboxylates, mais avec des métaux de plus haute valence. Pourquoi ? Parce que finalement, les métaux de plus haute valence, indépendamment de la topologie qui peut être créée autour, je discuterai de ça en détail dans le cours sur les MOF, eh bien, il y a des problèmes de stabilité qui se posent. C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez un carboxylate qui est une base dure, il faut mettre un acide dur, un acide de Lewis dur en face. Et donc, en fait, il faut se décaler dans les charges. Donc, 3+, 4+, 5+, ça, c'est une possibilité. Par contre, lorsque vous avez des acides de Lewis faibles, mous, je dirais, bien à ce moment-là, les bons couplages, ça ne va pas être avec le carboxylate. Le carboxylate va donner des magnifiques structures et des très beaux papiers. Mais la stabilité, ben, ça va être des dérivés azotés, essentiellement. Hein, des bases molles. Hein. Donc ça, on en discutera de façon beaucoup plus extensive dans le cours sur les MOF. Alors voilà, bon, je prends un exemple pour les gens qui ne connaissent pas ce genre de composé. Donc on part donc de, voyez, d'un métal de tétraèdre de zinc avec un petit oxygène au centre. Et puis on les coupe, vous voyez, un acide avec deux fonctionnalités. Voilà, ici, ce que ça représente le bâton bleu qui représentait le crabe, les deux pinces, et j'accroche à ce zinc. Et donc, ça donne finalement, vous voyez, des assemblages réguliers, puisque j'ai un montant qui est rigide. Je vais avoir des assemblages réguliers et puis je vais obtenir ces fameuses structures. Alors, évidemment, je peux jouer sur la nature du montant, en fait, avec des difonctionnels ou des systèmes un peu plus compliqués en difonctionnels, des trifonctionnels ou des systèmes qui vont avoir une topologie totalement différente. Et donc, ça va me permettre, dans un premier temps, de générer des matériaux, vous voyez, poreux. Cette boule jaune représente finalement l'espace poreux. Hein. Donc typiquement, ces premiers MOF, c'était des surfaces de l'ordre de 2900 m² par gramme. Donc on commence déjà à atteindre des surfaces importantes. Et puis, bon, donc plus récemment, vous voyez, en 2010, donc 2005-2010, eh bien, les chercheurs ont commencé à chercher des systèmes un peu plus complexes, toujours avec du zinc, parce que ça se fait bien, parce qu'en général, le zinc, ce n'est pas trop difficile à coupler à ces carboxylates, même si, j'insiste, in fine, ce n'est pas forcément les plus stables. Eh bien, vous voyez, en jouant sur deux montants, eh bien, on va jouer finalement sur la topologie de l'échafaudage. Vous avez ici un système à trois carboxylates, plan, que vous allez retrouver ici. Je ne vous dis pas de bêtises, que vous allez retrouver ici, vous voyez, par exemple. Puis un deuxième couplage qui est dû à ce montant, donc un système biphényle avec deux carboxylates. Et donc la conjugaison finalement de ces deux systèmes permet d'obtenir, vous voyez, ce qu'on appelle le MOF 210 avec des surfaces qui sont de l'ordre de 6000 m² par gramme avec des volumes poreux qui commencent à être assez conséquents. Alors je voudrais simplement vous montrer un exemple qui vient juste de paraître là, pendant les fêtes de Noël à Nature Materials. Et qui est finalement l'utilisation de ces matériaux microporeux comme tamis moléculaires. En particulier, il y a des grands défis qui sont les séparations d'oléfines et de paraffines. Bon, oléfine, typiquement l'éthylène, paraffine, l'éthane. Ce sont des systèmes, vous voyez, qui ont des points d'ébullition assez proches, qui, au niveau industriel, aujourd'hui, sont séparés par distillation cryogénique à moins 160 degrés sous haute pression. Donc ça coûte et c'est énergivore. C'est un matériau, les oléfines sont des matériaux importants puisqu'elles permettent de produire un certain nombre de composés, je dirais, de type polymère, des polyéthylènes ou des oxydes d'éthylène, par exemple. Et donc, un des défis, c'est de remplacer finalement cette étape de distillation cryogénique par un système qui soit moins énergivore et moins coûteux. Et typiquement, c'est l'utilisation d'absorbeurs sélectifs à la forme et à la taille des molécules. Alors, ce qui a été fait dans ce dernier article, donc de décembre 2018, eh bien, vous voyez, c'est un couplage avec des cations qui ne sont vraiment pas toxiques, hein, le magnésium, avec cet acide squarique qui est utilisé, je pense, en cosmétique déjà. Et donc, en couplant ce magnésium, vous voyez, bon, ces petits carrés représentent l'acide squarique, vous voyez, vous avez un système qui va générer un système de polymères de coordination cristallisés et poreux. Bon, UTSA, c'est Université technologique de San Antonio. Enfin, le travail a été fait par deux collègues chino-américains, puisqu'en général, maintenant, vous savez que la plupart des labos ont une composante en Chine et une composante dans un laboratoire. Et donc, en fait, voilà, c'est comme ça que ça travaille maintenant. Mais le boulot est superbement intéressant. Et donc, en fait, vous voyez, ça libère finalement des cages avec typiquement, vous voyez, des canaux cylindriques qui tournent autour de 3 ou 4 angstroms. Et en plus, c'est une synthèse qui est facile à faire au kilo. Et donc ça, pour les applications, pour les gens qui regardent les applications, ou même peut-être qu'il y a des industriels dans la salle, c'est toujours intéressant, parce que si on travaille sur le milligramme, c'est très bien pour une publication. Il faut travailler au niveau du gramme ou du kilo pour aller un petit peu plus loin dans les applications. Alors, qu'est-ce que ça donne, cette superbe structure, vous voyez ? Quand vous regardez la surface en coupe transversale, vous êtes à 14,4 angstroms carrés, ici, la fenêtre. La surface en coupe transversale de l'éthane, elle est à 15,5 angstroms carrés. Vous voyez, on arrive à des choses très précises. Et l'éthylène, lui, il est à 13,7. Eh bien, cette différence-là va être suffisante pour avoir un absorbeur très, très sélectif qui va absorber l'éthylène et laisser passer l'éthane. Et c'est ce que vous voyez ici sur les quantités absorbées en fonction de la pression. Vous voyez bon, que l'éthane, lui, il passe. L'éthylène, lui, il est très clairement absorbé. Et donc, la sélectivité à l'absorption, il y a un rapport de 10 000 entre les deux, ce qui est déjà très conséquent, avec des taux d'absorption qui sont relativement intéressants, de l'ordre de 1,86 mol par kilo, c'est ce qui est reporté. Donc, ce sont des exemples, je dirais, qui montre finalement l'intérêt de ces matériaux. Alors, ce qu'il faut voir derrière tout ça, c'est que la plupart des séparations de gaz, il y a toujours de l'eau, il y a toujours de l'humidité. Donc, il faut que ça soit stable à l'humidité. Et ce qui est reporté dans l'article, c'est que ça a l'air d'être stable à l'humidité. Bon, donc, a priori, il faut les croire. Matériaux mésoporeux à structure périodique. Là, c'est quelque chose que certains d'entre vous connaissent mieux parce que j'en ai déjà parlé abondamment dans mes cours. C'est le couplage, finalement, de la chimie douce et puis des savons. Donc, la chimie douce, c'est des réactions de polymérisation minérale où on part, vous voyez, de précurseurs simples, du silicium entouré de calfonction alkoxy qui, en présence d'eau, vont libérer ces groupements alcool pour former des groupements réactifs silanol. Et ça, c'est réactif, ça va condenser pour former, vous voyez, des polymères. Et des polymères qui peuvent être variables, c'est-à-dire qu'il y a une richesse de chimie qui est énorme, puisque globalement, ce précurseur de départ, vous pouvez l'équiper d'à peu près n'importe quelle fonction organique ou biologique. Aujourd'hui, c'est quelque chose de très classique. Et à nouveau, vous allez pouvoir faire des polymères qui vont être hybrides. Donc ça, en deux mots et en deux secondes, c'est une vue de la chimie douce. Alors, comment on utilise cette chimie douce ? Eh bien, on la couple avec des systèmes qui vont donner des savons, donc des micelles. Le savon, typiquement, c'est une forme, ça donne des formes micellaires, simplement parce que vous avez une molécule ou un polymère, mais bon, là, je prends le cas le plus simple d'une molécule, qui est un peu schizophrène. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui a horreur de l'eau et une partie qui adore l'eau. Et au niveau thermodynamique et énergétique, eh bien, la partie qui aime l'eau va se montrer vers l'eau et la partie qui n'aime pas l'eau, elle va s'enfouir dans la micelle. Par contre, ça va permettre d'enlever les graisses. Et donc, bon, je ne vous refais pas toute la théorie des micelles parce que j'en ai déjà suffisamment parlé. Et puis, dans le cas du carbone, je reviendrai sur certains détails concernant finalement tous les problèmes de courbure. Mais en gros, finalement, en fonction du micelle qui est choisi, donc en fonction de la molécule que l'on a, on va obtenir des micelles sphériques ou cylindriques en fonction de ce paramètre géométrique. Et ça, pour comprendre, pour les gens non spécialistes, optimiser une surface avec des bouchons de champagne ou des cornets de glace, hein, c'est pas la même chose. Vous n'allez pas avoir les mêmes empaquetements. Ça, c'est simple à comprendre. Hein. Donc, en fait, c'est ce qui se passe, pour résumer de façon simple. Alors, ensuite, on couple ce que je vous disais, la chimie douce, avec ces tensioactifs ou ces savons. Ces systèmes micellaires, quand on les concentre, ont tendance à former, vous voyez, par exemple, des micelles cylindriques qui s'empaquettent en cristaux liquides. Mais je vous ai dit que les micelles, finalement, il y avait une partie qui aimait l'eau, une partie qui n'aimait pas l'eau. Et donc la partie qui aime l'eau, elle est vers l'extérieur. Et puis ces systèmes-là, une fois qu'ils sont hydrolysés, ils ont des silanones, des COH qui sont hydrophiles. Donc ça va venir se coller sur les micelles. Et puis ça va continuer à condenser toutes ces espèces bleues pour former un mur qui va être bleu ici. Donc ça, c'est un solide. Une phase... Et puis ensuite, vous allez laver le savon ou l'éliminer... soit par lavage, soit par un traitement thermique. Et ce que vous allez obtenir, à la fin, vous voyez, c'est un matériau avec des trous calibrés, puisque finalement, il y aura une relation qui est... c'est pas la même taille, mais il y a une relation directe entre la taille des micelles que vous voyez là et la taille des trous que vous pouvez libérer. En plus, si vous choisissez un précurseur avec une fonctionnalité un petit peu intéressante au départ, à l'arrivée, hop, vous allez retrouver votre précurseur après lavage dans les trous. Donc, petits trous, grande surface spécifique. Et donc ça va permettre d'ouvrir en fait sur plein de matériaux. Alors même si le mur est amorphe, vous avez une périodicité ici dans le pore et dans le trou, ce qui veut dire qu'au niveau de la diffraction des rayons X, ce que vous voyez les diffractions des rayons X, c'est les contrastes de densité. Donc si vous avez un contraste qui est périodique, vous allez avoir une réponse, comme ici, c'est une structure hexagonale, et donc ça vous permet en plus de caractériser beaucoup plus facilement les matériaux. Alors, l'un des grands apports qu'a apporté la chimie des mésoporeux, de mon point de vue, c'est que ça permet d'avoir un contrôle qualité sur le sol gel. Parce que finalement, on a les rayons X et la microscopie derrière, et que c'est beaucoup plus facile au niveau des observables que lorsqu'on a un matériau qui est amorphe. On est obligé de faire l'infrarouge, vous voyez ce que je veux dire, pour ensuite reconstituer un puzzle et puis donner une hypothèse de structure. Et donc, indépendamment des propriétés, j'insiste, indépendamment des propriétés, ce qu'a apporté cette thématique de recherche, c'est, je le dis, un contrôle qualité à toute la chimie douce et à la chimie sol gel. Alors bon, en microscopie électronique, à nouveau, vous voyez les contrastes, les parties claires correspondent aux trous, et puis les murs condensés correspondent aux parties noires, hein. Alors, bon, ben, après, une fois qu'on a compris le concept, eh bien, on peut s'amuser à choisir des sources de métaux différents, pas uniquement le silicium. On peut s'amuser à hybrider le silicium, à le ponter. Ça, c'est du côté des précurseurs. Du côté donc, des savons ou des systèmes amphiphiles, eh bien, on peut prendre des systèmes chargés, le CETAP, par exemple, ou des systèmes neutres mais moléculaires, ou des systèmes polymères avec des parties qui aiment l'eau et des parties qui aiment l'eau et des parties qui n'aiment pas l'eau. Et vous allez retrouver finalement avec des tailles différentes des milieux micellaires et à peu près les mêmes principes d'auto-organisation et également les mêmes principes d'utilisation de ces systèmes pour créer des matériaux poreux. Alors bon, quelques exemples. Hein. On peut faire des pontées. Vous voyez, ça c'est des synthèses. Ça a été fait au laboratoire, ce sont des films. Également du côté des métaux de transition, pour amener les fonctions organiques. Le silicium, c'est assez simple, puisqu'on a toujours une liaison silicium-carbone qui, dans la plupart des cas, on peut rentrer dans les détails, est relativement stable en présence d'eau. Pas toujours, il faut faire attention. Par contre, si on veut utiliser des fonctions organiques pour fonctionnaliser des métaux de transition ou des terres rares, eh bien, ben, il faut utiliser essentiellement des systèmes complexants, ça. Tous les chimistes de coordination savent ça. Carboxylate, bêta-dicétone et phosphate, je les ai mis dans cet ordre-là parce que finalement, le pouvoir complexant par rapport à un acide dur comme le titane ou le zirconium, eh ben, il augmente dans ce sens-là. Donc vous avez une dynamique qui est de plus en plus faible de votre système lorsque vous allez vers le phosphonate. Alors un exemple qui avait été développé par Lionel Licol et Tuatranti du CEA, c'est l'utilisation finalement de ces films mésoporeux hybrides pour faire des capteurs à BF3. Donc BF3, c'est un gaz toxique qui est utilisé dans la microélectronique du silicium. Et donc il faut des capteurs. Alors faire un capteur, vous voyez, c'est assez simple quand on sait prendre, je dirais, le taureau par les bonnes cornes. Ça représente un film qui a été fait dans les conditions que je viens de vous expliquer, donc auto-organisation de savon et puis condensation de silice. Et dans la silice, eh bien, on a mis un certain nombre de fonctionnalités que j'appellerais des fonctions de reconnaissance. Et donc dans le trou, ça représente le port, vous allez retrouver cette fonction de reconnaissance qui est une bêta-dicétone aromatique, qui a d'ailleurs d'autres utilisations, en particulier dans les domaines de la cosmétique. Et donc cette fonction de reconnaissance, lorsque vous faites le spectre de luminescence, donc d'émission de cette molécule, vous obtenez ceci. Donc ce n'est pas très très intense, donc c'est relativement non fluorescent. Par contre, dès qu'elle voit du BF3, elle forme le complexe BF2-bêta-dicétone et la claque. Vous avez tout de suite une montée importante de la luminescence avec des seuils de détection qui sont 10 parties par milliard. Donc des seuils de détection importants, d'autant plus qu'on est en luminescence, bien entendu. Si on faisait la même chose en absorption, on perdrait énormément au niveau du seuil de détection. Mais la plupart des capteurs optiques, un grand nombre, sont basés finalement sur la luminescence parce que c'est beaucoup plus sensible. Alors au niveau des matériaux, je dirais, par exemple, pontés par des siliciums, un travail que j'aime bien citer, c'est celui de Terasaki et d'Inagaki. Inagaki, c'est un industriel japonais qui travaille pour Toyota. Donc ce qui veut dire qu'on peut être industriel et faire aussi de très belles choses au niveau fondamental. Hein. Et donc ça a été les premiers à trouver ces faces qui sont presque cristallisées hein, en utilisant finalement ce genre de précurseur dysfonctionnel qui, lui, va se positionner dans les murs, en fait. Tous les murs ici vont avoir ces noyaux aromatiques. Et puis l'extérieur du mur, la condensation va se faire en utilisant ces fonctions-là. Alors, il y a eu des tas de variantes. Au niveau des travaux, je pense que les premiers, en fait, également, bon, je voudrais citer les travaux qu'a fait Ozin, par exemple, également Froba. Au niveau des précurseurs bifonctionnels, je dirais, de plus en plus intéressants, de plus en plus complexes, il y a eu énormément de travaux qui avaient commencé avant. Si vous regardez la littérature, vous avez deux groupes, un en France et un aux États-Unis. Je pense que le groupe français, c'est celui de Montpellier, dans lequel qui est décédé Robert Coriou, Michel Wong-Schiman et Joël Moreau. Donc tous ces concepts, ils ont été établis à ce moment-là pour les systèmes, je dirais, bifonctionnels. Il faut quand même y avoir la littérature en tête. Et en même temps, il y avait le groupe de Kenshi avec Douglas Lloyd, et ils étaient à Irvine à l'époque, en Californie, qui ont fait la même chose, mais au lieu d'avoir des dérivés alkoxydes, vous voyez, avec des groupements OR, c'était des dérivés chlorés. Mais c'est arrivé pratiquement en même temps, pratiquement les années 91-92, je crois. Les deux sont arrivés en même temps, et donc ça fournit une librairie qui est absolument fabuleuse, de molécules avec des propriétés catalytiques. Vous voyez, là-dedans, on peut mettre du cuivre. Si on met du cuivre, eh ben, on va aller vers du CO2. Enfin, vous imaginez bien très facilement ce qu'on peut faire avec ça. Enfin, catalyse, transformation de CO2, réduction de CO2, par exemple. Et donc, en fait, il y a tout un arsenal de molécules qui a été fait par les groupes français et américains, et également par le groupe allemand de Michael Froba. Donc aujourd'hui, je dirais que c'est une chimie qui continue à se développer, mais toujours avec un regard vers l'auto-organisation, vers l'auto-assemblage, pour faire justement des matériaux où on va avoir, par exemple, des murs avec certaines propriétés, et puis si on couple avec un organosilane monofonctionnel, et ben dans la porosité, on va avoir une deuxième fonction. Donc on va avoir des systèmes avec deux fonctions, une dans le mur et une... Donc tout ça, c'est des choses qui sont bien, bien développées. Alors ce que je voudrais vous montrer dans cette série d'exemples, c'est quelque chose que je trouve assez original, qui a été développé par Corinne Gérardin à Montpellier. C'est finalement l'utilisation de systèmes de tonxioactifs un petit peu particuliers. au lieu d'utiliser, je dirais, les blocs copolymères conventionnels ou les tensioactifs genre CETAB, ce qu'elle a utilisé, c'est, vous voyez, des polymères polyoxyde d'éthylène, polyacide acrylique, qui, en fonction du pH, vont se charger. Vous voyez, bon, la fonction acide, elle perd le proton, donc vous allez avoir des moins. Hein, le point de changement, le pK, il est à 4. Couplé avec, par exemple, des sucres, mais pas n'importe quel sucre, des oligoquitosanes. Donc les chitosanes, ça veut dire qu'il y a des fonctions aminées. Et donc ces fonctions aminées, elles vont être plus ou moins protonées en fonction du pH. Et quand vous séparez les deux systèmes, vous voyez, à pH, à bas pH, eh bien, celui-ci est chargé, mais l'autre ne l'est pas. À haut pH, l'acide acrylique est ionisé, donc il est chargé, mais l'autre composant n'y est pas. Donc ce sont des systèmes qui sont totalement dissociés. Par contre, dans la zone de pH, en gros, 4 et quelques, 7 et quelques, eh bien, vous allez avoir les deux systèmes qui vont être chargés, plus moins. Vous allez coller, faire des micelles. Et ces micelles, bien, évidemment, elles sont forcément très, très réversibles. Alors, la réversibilité, c'est intéressant parce que ça se forme et ça se déforme. Et la fenêtre qui est particulièrement intéressante, c'est que, en gros, la stabilité, c'est entre 7 et 4. Alors, si on réfléchit un peu du côté de la biologie, je forme des vecteurs, je vais être à pH 7, essaye de traiter une tumeur, je vais rentrer dans l'espace lysosomial, pH 4. Vous voyez ? Donc, le concept, il est assez intéressant de ce point de vue-là. Et donc, ce qu'ils ont fait, ça, c'était les premiers travaux. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, ils ont couplé ces systèmes-là à deux choses. D'une part, à des silices qui permettent de polymériser pour encapsuler, finalement, le principe actif. Mais l'un des deux principes actifs, au lieu de prendre un sucre porteur d'azote, eh bien, ça peut être un antibiotique, voyez, et une néomycine. Vous avez des groupements azotés qui, eux, quand on va commencer à descendre le pH, vont se protoner. Et donc, ici, vous allez avoir la partie positive. Et puis, vous allez garder comme partie négative le même copolymère, polyoxyde d'éthylène, polyacide acrylique. Et vous allez coupler les deux avec de la silice et vous allez pouvoir les encapsuler. Sauf que maintenant, le principe actif, dès que vous allez changer le pH, il va être largué, puisque c'est l'une des deux composantes. Et vous l'optimisez, vous pouvez également le protéger en créant une silice mésoporeuse autour. Ça, c'est des données de microscopie électronique. Vous voyez ici, en diffraction des rayons X, on voit que c'est une silice organisée. Ça se voit très bien au niveau de la microscopie électronique. Hein. Et dans cette porosité, vous avez le système, je dirais, ionique qui ne demande qu'à se dissocier en fonction du pH. Donc vous allez avoir une première étape où, par exemple, la coquille de silice, en fonction des sollicitations, peut commencer à se dissoudre. Et également, vous pouvez relarguer beaucoup plus brutalement un principe actif. Donc ça, je trouve que c'est une démarche qui est originale, qui n'avait pas été... reporté, je dirais, par beaucoup de... Donc, je finis mon exposé, c'est bientôt terminé, oui, sur la hiérarchie que je traiterai dans ma dernière leçon. Porosité bimodale, alors, il y a des exemples dans la nature. Hein. Quand vous regardez ces coquilles de silice, en fait, tout ça, ce sont des algues phytoplanctoniques qui sont protégées par de la silice qui a été faite à température ambiante par chimie douce, donc des radiolaires, des chrysophysées ou des diatomées. Alors, quand vous les regardez de près, ben, vous avez des pores, vous avez des trous, mais des trous avec une structure hiérarchique, je dirais, de quelques dizaines de nanomètres ou à quelques fractions de microns. Donc, la nature sait faire ça mieux que nous, bien mieux. Et donc, c'est la hiérarchie, c'est essayer de construire de la hiérarchie. Donc, dans mon dernier cours, je vous parlerai de structure hiérarchique. Alors, il y a un certain nombre de façons d'aller vers la hiérarchie. Bon, il y a l'utilisation de templates ou de gabarits plus gros et multiples. Ça, c'est une possibilité. Il y a une possibilité qui est de jouer sur des séparations de phases contrôlées qui peuvent être du gaz, des micro-émulsions, du ice templating, des figures de respiration ou même des constructions de type aérogel. Donc tout ça, ça permet d'aller vers de la hiérarchie et de coupler finalement ces phénomènes chimiques et physico-chimiques avec des méthodes d'ingénierie, en fait, des méthodes de procédés qui sont des lithographies, de l'électrospinning, donc de l'extrusion électroassistée, du jet d'encre, de l'impression 3D, de l'aérosol, etc. Et donc, c'est de coupler ces systèmes-là avec, finalement, des stratégies chimiques et physico-chimiques. Alors, juste très rapidement, les aérogels, vous voyez, ce sont des matériaux très intéressants au niveau des études scientifiques, mais également au niveau des applications. Ce sont des systèmes qui sont très peu denses, c'est pratiquement que de l'air, avec des porosités qui sont énormes, avec justement des isolations thermiques, ça c'est un bec benzène, hein, qui sont remarquables. Alors, le point faible, ça flotte, hein, vous voyez, bon. Le point faible, c'est que la mécanique des aérogels est faible, c'est le cas de le dire. Et donc, en fait, c'est des systèmes qu'il faut renforcer. Et en particulier, ces dernières années, il y a eu pas mal d'études sur des approches. Enfin, les aérogels, en général, pour les obtenir, on fait un gel en polymérisant soit des polymères, soit de la silice, par exemple. Et ensuite, pour enlever le solvant et minimiser les contraintes capillaires, on se place dans des conditions hypercritiques, où on n'a plus l'interface liquide-gaz. Pardon. Et donc, en fait, ça permet d'obtenir des pièces qui sont jolies à voir, mais vous les touchez, ça casse. Et donc, il y a des astuces pour aller vers des systèmes qui sont un peu plus transparents et qui sont également plus robustes. Bon, ça, on en parlera dans le dernier cours. Mais je voudrais simplement vous citer un très vieil exemple, parce que la plupart des jeunes, vous ne le connaissez pas, et je pense que c'est un exemple qui va vous intéresser. C'est celui de verres poreux qui ont été faits avec une stratégie qui date des années 30. Ces verres poreux, ils ont été découverts, voyez, à la fois du côté de la Russie et du côté des USA. Et dans ces verres poreux, on peut obtenir des tailles de pores, de la hiérarchie, mais également des tailles de pores qui se baladent, voyez, entre 1 nanomètre, avec des bonnes distributions, et 1 micron, avec des mises en forme qui correspondent à des verres. Et donc ça, en général, qui connaît dans la salle ? Vraiment ? Pas beaucoup, hein ? Bon, eh bien, ça existe. Hein, ça existe, et donc, il faut le savoir. Et vous voyez les mises en forme qui sont possibles. Alors, comment on fait ? Eh bien, c'est basé sur la séparation de phase. On part d'un verre initial qui est un borosilicate, où on peut ajuster la composition en sodium et en bore et en silice. Et donc, on a plusieurs options. Ce qu'on va gérer, c'est une séparation de phase spinoïdale. Et donc, ça se gère comment ? Temps, température. Vous vous rappelez des cours, principe de superposition, temps, température, séparation, c'est la même chose. Hein ? Et donc, vous voyez, par exemple, une fois que vous avez formé le verre, si vous vous mettez dans des chauffages inférieurs à 540 degrés avec des temps courts, eh bien, vous allez avoir une séparation de phase où vous allez avoir la partie riche ici qui va être très riche en silicium et la partie verte ici qui va faire une séparation de phase qui va être très riche en bore, en silicate et surtout en sodium. Ce qui veut dire qu'un simple lavage acide, vous allez dissoudre la partie que vous voyez en vert pour créer finalement une porosité qui est totalement interconnectée. Et donc là, si vous arrêtez à des temps courts, vous allez simplement développer une structure de micropores et de mésopores. Par contre, si maintenant vous vous placez à température, vous voyez, ça se joue à peu de choses, à des températures supérieures à 580 degrés avec des temps plus longs, eh bien simplement vous allez étendre la séparation de phase et également ségréger finalement les compositions chimiques à l'intérieur. Donc au départ, vous avez votre borosilicate qui ségrège et puis vous allez obtenir un verre poreux avec, dans les canaux ici, de la silice finement dispersée. Et donc à ce niveau-là, après un lavage acide, vous allez un verre poreux micro et mésoporeux. Et puis, si vous faites un deuxième lavage, cette fois-ci en milieu basique, pour enlever la silice qui est dans les pores, eh bien, le verre poreux, vous allez obtenir une silice finement dispersée, vous allez en consommer une grande partie, la dissoudre, et vous obtenez un matériau microporeux et macroporeux. Vous voyez, donc ça, c'est un autre dessin que j'ai trouvé, avec le réseau de silice ici, qui est très peu soluble, c'est du silice relativement pur, le borosilicate ici, avec les petites particules de silice riches en borosilicate, qui également peuvent être plus ou moins dissoutes en fonction du traitement de lavage. Et donc, ça vous permet d'obtenir des matériaux intéressants. Donc ça, ce sont des systèmes qui sont macroporeux, vous voyez. L'échelle ici, c'est 1 micron. Ici, c'est 100 nanomètres. Donc ça, ça en plus, là, exactement le faciès d'une séparation de phase par décomposition spinodale. Et puis, quand vous regardez maintenant la taille des pores, eh bien, les plus petits, vous voyez, rayon des pores en nanomètres, 2 nanomètres, et puis c'est bien piqué. Donc, je trouve que ce sont des matériaux qu'il fallait absolument que je vous fasse découvrir. Taille des pores ajustable, 1 à 1000 nanomètres. Volume poreux, surface spécifique, ce n'est pas énorme, mais 500 m² par gramme, ce n'est pas négligeable, avec une bonne densité des murs, une stabilité thermique jusqu'à 750 degrés, avec une transparence qui peut être ajustable. C'est jamais parfaitement transparent, sauf si vous faites des systèmes de type film, mais vous allez pouvoir avoir quelque chose de relativement transparent, au balaissant ou au bac, selon comment vous gérez la séparation de phase. Des teneurs en silice énormes en 96%. Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Eh bien, un laser à colorant solide. C'est simple. La recette, elle est là. La recette, c'est le canard. C'est le petit sucre que vous trempez dans le café. C'est aussi simple que ça. Si j'ai mon verre monolithique avec un accès à la porosité, j'ai des forces capillaires. Si j'imprègne mon verre dans un peu de polymère, un monomère qui va polymériser, je prends l'exemple le plus simple, le méthylmétacrylate, je vais polymériser le système et obtenir un bloc monolithique où je vais encager le polymère et le verre. Et si je m'amuse à mettre un colorant à l'intérieur en même temps, ici, là, eh bien, à la fin, je vais avoir quelque chose que je peux mettre en forme et puis qui va laser. Je vais avoir un colorant solide. Donc, plus d'eau, plus de liquide qui passe devant, simplement des pastilles que je change ou que je fais tourner pour éviter, finalement, l'échauffement. Donc, vous voyez le genre de choses qui peuvent être faites, mais il y a des tas d'autres exemples. J'en arrive à la fin. Les réactions de transformation pseudomorphique, ça, c'est aussi quelque chose que vous ne connaissez pas très bien. Je parle pour les étudiants, hein. C'est la substitution d'une substance par une autre avec conservation de la forme du minéral d'origine. Par exemple, dans la nature, vous avez cet oxyde de cuivre qui, en présence, vous voyez, de CO2 et de générateur de chaux, vous passez d'une structure cubique avec cette coloration-là à une structure qui n'a rien à voir, une structure monoclinique, une phase, c'est un carbonate que vous obtenez, mais vous gardez la forme. Et donc ça se fait parce que vous avez des phénomènes de dissolution-reprécipitation à la fois lent et confiné. Donc le concept qui peut être utilisé pour faire des matériaux poreux. Comment ? Eh bien, voilà, simplement, ça, c'est l'équipe de Montpellier. Hein. Donc Anne Galarno, Francisco, Martin, Fajula et Anco. Par exemple, vous avez des billes de silice amorphe qui sont poreuses, mais avec des tailles qui sont assez conséquentes. Si, en présence d'un tensioactif et de soude, vous arrivez à contrôler les vitesses de dissolution et reprécipitation, comme vous êtes également en milieu confiné, vous allez pouvoir augmenter de façon artificielle la surface. En particulier, la précipitation, si vous diminuez la dilution, vous augmentez la base, la température, vous avez des paramètres d'ajustement. Et puis, dans l'autre sens, si vous voulez diminuer la précipitation, vous avez des paramètres chimiques et physico-chimiques d'ajustement. Alors, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que si vous regardez maintenant les applications, par exemple, en chromatographie de phase stationnaire, c'est bien d'avoir des surfaces élevées pour l'efficacité de séparation, mais il faut avoir des billes d'une certaine taille pour les tenues mécaniques. Ce n'est pas les petits granules de mésoporeux qu'on fait en laboratoire qui peuvent tenir, ça n'a aucun intérêt. Et donc, en fait, ça permet de combiner les deux, donc d'avoir à la fois des monodispersités de particules qui permettent un bon remplissage et d'optimiser les problèmes de transfert de masse, puisqu'on a l'espace interparticulaire et l'espace mésoporeux. Alors, comment ça se fait ? Vous voyez, on part d'une silice commerciale avec cette surface-là. On utilise un tensioactif en présence de soude et on arrive, ça c'est la microscopie électronique, à une silice mésoporeuse classique, la fameuse Mobile Composition of Matter, MCM41, qui était une des premières phases mésoporeuses obtenues dans les années 92, je crois, avec une augmentation de la surface. Et donc ça, c'est les billes au départ, avec, vous voyez, une porosité qui pointe à 5 microns, complètement, je dirais, non organisée au niveau de la porosité, un isotherme qui est complètement calé vers les hautes pressions. Et ça, c'est après traitement, on a gardé la forme des billes. On a maintenant des isothermes qui montrent qu'on a des systèmes qui sont mésoporeux, avec en fait un système qui est organisé au niveau des pores, puisque vous avez une réponse en rayons X qui correspond à un MCM41. Et donc ça peut être fait avec différents types de... Pas qu'avec une seule type de silice. Vous voyez, ça a été fait avec d'autres types de silice commercial. Et en poussant les conditions, eh bien, on peut même choisir les types de phases. Donc on peut aller vers des phases du type MCM48 qui ont l'avantage, elles, de ne pas être hexagonales. Elles sont interconnectées. Et donc là, au niveau de la diffusion, vous êtes optimum pour les applications chromatographiques. Hein ? Donc voilà ce qu'on peut obtenir. Ça, ce sont deux billes de silice commerciales avec des tailles millimétriques. Hein. Donc ça se remplit bien dans la colonne. Les surfaces initiales, 750 m², 1300, 500, 1400, presque 1500. Donc on a un facteur pratiquement 2 à 3. Hein. Et donc ça peut être fait de façon très simple avec un contrôle de la dissolution précipitation. Et donc ça, c'est l'utilisation finalement, vous voyez, de barreaux de silice. Donc on peut mettre en forme même des barreaux. Et donc la structure de cette silice, elle présente une séparation de phase à l'intérieur. Ça, c'est ce qu'on voit dedans. Et ça, j'en rediscuterai dans mon dernier cours, donc je vais assez vite. C'est une combinaison finalement de la chimie sol-gel, la polymérisation chimie douce des silicates, avec la présence de polymères qui permet de générer en fait la séparation de phase et la formation du réseau de gel. Et donc ça, c'est à nouveau une décomposition spinoïdale qui donne finalement cette structure, vous voyez, avec une porosité de l'ordre de quelques microns, qui permet l'accessibilité, qui ne limite pas les aspects diffusionnels. Et à l'intérieur, quand vous regardez, vous avez ça dans les murs. Vous avez des mésopores parfaitement bien calibrés parce que finalement, le tensioactif et la base a fait le travail. Et donc, vous avez ce genre de... Alors, au niveau des matériaux poreux, bon, je vais aller assez vite, bah, ça touche tous les domaines, énergie, environnement, santé, technologie de l'information. Quelques exemples, vous voyez, de domaines qui sont touchés par les matériaux poreux. Je pense qu'aujourd'hui, ils peuvent apporter un certain nombre de solutions et ils en apportent déjà à des problèmes, je dirais, sociétaux et des problèmes également industriels. Vous voyez, ça, j'ai juste fait un petit balayage d'où on trouve finalement les propriétés et dans certains cas les applications de ces matériaux poreux. Alors, si on regarde les surfaces, et c'est vraiment mon dernier transparent, je vous rassure, ici, vous avez la surface en mètres carrés par gramme et ici, vous avez les années. 1990-92, c'était le début des mésos, hein. 94, voilà. Vous voyez, les surfaces sont autour de 1000 mètres carrés par gramme. Aujourd'hui, 2018, été 2018, le dernier né, vous êtes presque à 8000 mètres carrés par gramme au niveau de la surface. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder les familles. Les molécules organiques poreuses, vous voyez, vous êtes aux alentours de 1000 mètres carrés par gramme. Les réseaux covalents organiques, les fameux COF dont je vous parlerai, eh ben, c'est pas mal du tout. Ça tourne autour de 3 à 4 000 mètres carrés par gramme. Donc ça devient des surfaces importantes. Les polymères poreux également. Alors ça, au niveau de l'application, c'est hyper intéressant parce qu'en général, il y a un coût plus faible. C'est amorphe, donc on publie moins vite parce qu'on n'a pas la structure, pour être très clair, mais ce sont des matériaux qui sont très intéressants quand même. Vous voyez les surfaces, 3000 pour les coffres, et pratiquement entre 5 et 6000. Alors un matériau qu'il ne faut pas oublier dans tout ça, parce que ce n'est pas cher, vous voyez, c'est le carbone commercial. On est déjà entre 3 et 4000 mètres carrés par gramme. Gardez ces données en tête. Les silices sol-gel, mésoporeuses, argile, vicor, zéolite, nanotubes de carbone, eh bien, c'est des systèmes qui sont déjà utilisés et on est typiquement dans la fourchette, vous voyez, 600, 1500 mètres carrés par gramme. Donc ces systèmes sont déjà intéressants. Ce qui veut dire que si on arrive à mieux contrôler en particulier, je ne parle pas du carbone hein, qui est là, hein, le carbone c'est vraiment le compétiteur aujourd'hui, mais sur ces nouveaux matériaux polymères poreux, COF, MOF, si on arrive à contrôler les stabilités, eh bien, on a un domaine qui est particulièrement intéressant pour le développement. Voilà, alors le dernier né, ce DUT60, là, c'est Dresden University. Oui, c'est ça, c'est Dresden University. Qu'est-ce que c'est? À nouveau, c'est un composé à base de zinc. Je vous dis, c'est le plus simple en général à faire, avec deux montants. Hein. Les réticulants sont là, les montants sont là et ils sont couplés, vous voyez, pour former une structure assez originale. Poreuse, avec des tailles de pores, voyez, à la fois à la limite du méso-micro et puis des tailles de pores un peu plus grandes, avec, voyez, des surfaces spécifiques annoncées dans l'article, avec les bémols que j'ai mis au départ quand même, hein, faut être prudent, et des volumes poreux qui sont de l'ordre de 5 cm3 par gramme, c'est énorme. Alors, évidemment, il faut aller vers des systèmes stables. Avoir ça avec un système stable, même si on perd 20 ou 30% sur la surface parce qu'on a un peu gonflé le chiffre, c'est pas grave. Par contre, ce qu'il faut, c'est que ça soit stable. Alors voilà mes cours matériaux poreux, je n'ai fini, c'est aujourd'hui. Je vous parlerai des carbones anciens et nouveaux la prochaine fois. Polymères poreux et leurs applications, je vous parlerai de systèmes amorphes, mais qui sont très intéressants au niveau de l'application, mais plus difficiles à caractériser. Matériaux poreux organiques à réseau covalent cristallisé, ça c'est ce qu'on appellera les COF. Ça, ce sont les MOF, les polymères de coordination organominéraux. Et puis, donc, je finirai en février par le cours sur la hiérarchie. Et n'oubliez pas que vendredi 22 février, donc, vous avez des programmes qui sont à l'extérieur. En partant, vous pouvez les prendre. Il y a un colloque international qui va vous présenter, finalement, un certain nombre d'avancées dans la recherche sur les matériaux poreux. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et pour votre patience.